Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Bonjour et bienvenue dans Comme un lundi en deux mots et pas trois, en douze mots et pas stress, et en français et pas toi, belaouen patès, enfin ça, on verra.
Et au sommaire de votre magazine Comme un lundi du 13 mai 2019, nous vous proposons pour commencer un point sur les différentes mobilisations en cours, que ce soit au niveau de la fonction publique ou encore des personnes en situation de handicap qui se sont mobilisées jeudi dernier. Nous étions place du Vigan à Albi pour le départ d'un convoi qui ira en direction de l'Elysée dans le but de rencontrer Emmanuel Macron pour lui faire respecter ses engagements en faveur des personnes en situation de handicap. Nous entendrons ensuite deux chroniques réalisées par des étudiants de la fac Champollion à Albi. Pour commencer, une chronique historique réalisée par Guillaume Carbone. Il est étudiant en licence d'histoire à Champollion et il participe également à l'atelier Radio Champo que vous pouvez entendre tous les jeudis à 16h sur Radio Albigès. Et il vous propose aujourd'hui de vous replonger à l'époque de la Saint-Barthélemy. Le massacre qu'on connaît tous a eu lieu à Paris, mais ses retentissements se sont fait entendre jusque dans le Tarn. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir d'ici quelques minutes. Ensuite, on entendra une autre chronique réalisée par un autre étudiant de la faculté Champollion, Bastien Laurent. Une chronique qui vous annonce l'arrivée d'une nouvelle émission sur Radio Albigès. Une émission consacrée au post-punk, ça s'appelle Transmission. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce mouvement musical qui a déferlé sur l'Europe à la fin des années 70, début des années 80. En attendant de découvrir l'émission Transmission, donc ce sera ce jeudi à 20h sur nos ondes. Et puis pour finir, nous vous proposerons un nouveau portrait de citoyens d'Occitanie, réalisé dans le cadre d'un appel lancé par l'Assemblée régionale des radios associatives. Mais pour commencer, comme chaque semaine, on écoute les messages que vous nous avez laissés sur la boîte vocale de Radio Albigès. Comme un lundi, c'est parti.
Allô, c'est moi. Tu n'es pas rentré.
Ouais, c'est pour dire. Moi, j'aime bien le Maxport là sur Albigès. Il y a juste un truc, c'est que le jour où le Maxport démarrera à l'heure, où Loïc il sera à l'heure, ben moi j'y paye une bière. Mais bon, moi je pense que la bière elle aura plus de mousse parce qu'il arrivera trop tard pour la boire. Allez, bisous.
Bon, ce matin au bistrot, toute la journée, dans le camion. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les gens sur Notre-Dame de Paris? Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la France, elle est en état de choc. Je comprends pas. On dirait qu'il y a quelque chose de grave. Je sais qu'il y a une église qui brûle. Mais bon, quand même, ils en font la une de partout, etc. Le temps, il passe dans la journée. Et carrément là, ah ouais, mais maintenant ils donnent du pognon pour la retaper, ils donnent des millions, c'est pas normal, c'est quoi ce bordel, nous on crève de faim, pour nous il n'y a rien du tout, là d'un coup il y a des millions. Moi j'ai envie de dire, bah, vous savez les classes populaires, il y a un divorce total entre le monde de Paris qui vont dans les musées, etc. Et nous, et je dis nous parce que j'en fais partie, hein. On va pas dans les musées, nous. Et pour ceux qui y vont, le premier dimanche du mois, parce que c'est gratuit. Et quand tu y vas, on te dit, oh, t'es malade ou quoi, tu vas dans un musée? Parce qu'en fait, on est un peu censé soit regarder un match de foot, soit aller au rugby, soit jouer au boule, soit aller au bistrot, soit aller courir. Donc, j'ai pas envie de dire que la classe populaire ne se cultive pas, mais je veux te dire, c'est que la culture, elle est un peu loin de nous, un peu beaucoup. Et beaucoup ne savent pas ce que c'est que Notre-Dame de Paris, dont moi, je ne sais pas spécialement ce que c'est que Notre-Dame de Paris. Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de parler, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un attentat, j'ai l'impression qu'on doit se taire. Après, peut-être que c'est normal, il s'est passé quelque chose, c'est l'histoire de France, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne connais pas, donc je ne parle pas. Si tout le monde dit que c'est grave et que c'est l'histoire de France, etc., bah, pas de souci. Mais là, les collègues, là, purée, 700 millions d'euros, 500 millions d'euros, 800 millions d'euros pour refaire ce truc-là. C'est quoi ce bordel-là? Et j'ai envie de dire, les gens ne font pas la différence entre des millions et des milliards. Pour eux, c'est pareil. Tout ce qu'ils voient, c'est d'un coup, là, il y a du pognon. Ils ont sorti du pognon pour retaper le truc. Par contre, pour les logements qui s'effondrent à Marseille, nada. Pour les logements insalubres partout en France, nada. Et pour les classes populaires qui travaillent au SMIC, rien du tout. Et pour les morts du chômage, rien du tout, etc., etc. Il y a juste eu la prime Gilets jaunes, hein, pas la prime Macron, la prime Gilets jaunes, comme dit le camarade Ruffin. Donc voilà quoi, petit témoignage sur la journée dans le camion. Donc voilà tout quoi. C'était un petit message sur Notre-Dame de Paris. Allez, à plus, ciao.
Joël, Saône-et-Loire, je voudrais dire ce matin que je trouve effectivement que c'est très triste que Notre-Dame brûle, sans conteste, mais que j'aimerais bien qu'il y ait un même élan national et international pour les causes qui restent en rade, pour soi-disant manque de moyens, pour ne pas les citer, les migrants abandonnés à leur sort, les centres de rétention, et il y aurait des dizaines de causes comme ça qui mériteraient ne serait-ce qu'une parcelle de cet élan national qui va profiter, bien entendu, à Jupiter à la veille des élections européennes. Bonne journée à tous.
Ouais, Radio Albigès, c'est Robert. Je voulais vous dire que je me suis régalé avec l'émission sur Amalia Rodriguez, qui est une chanteuse apparemment portugaise, et je me suis régalé. J'ai appris plein de choses. Je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas l'histoire. Et voilà. Donc merci à vous et continuez comme ça.
Mais le sol da primavera. Com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Oui, bonjour à tous. Yves de Toulouse. Voilà, une nouvelle fois, enfin, on est vendredi, donc demain, un nouveau rassemblement, enfin, une manifestation de colère, mécontentement aussi par rapport à cette histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand on voit les sommes qui ont été récoltées, pas loin de 1 milliard d'euros, alors moi, j'en resterai sur le département, enfin, le conseil départemental socialiste de Haute-Garonne a dégagé 1 million. Le conseil régional, 1 million d'euros, Madame Degas aussi, du Parti socialiste, et 1,5 million de la part de la métropole de Toulouse, Monsieur Moudenc, qui est proche du parti de Monsieur Macron, puisqu'il a demandé quand même des renforts lors de la dernière manif samedi dernier. Donc voilà, ça démontre bien plus bon la famille Bettencourt, Pinault, Arnaud, Total, etc. Donc alors qu'il y a plein de gens qui crèvent de faim, quoi. À Toulouse, il y a des tentes sur tous les boulevards, partout, des gens qui sont à la rue, puisque j'en parlais dans le dernier commentaire, les expulsions n'arrêtent pas. Heureusement qu'il y a des assos comme le droit au logement qui font un travail formidable sur la région de Toulouse, et puis même partout en France, je pense. Donc c'est vraiment odieux, enfin, c'est l'indignité de la part de même les journalistes, enfin, je dirais, qui rentrent dans cette surenchère concernant cet argent, la fondation qui a été créée pour le patrimoine. Ils ont lancé un concours international pour, en 5 ans, refaire la toiture et les charpentes de Notre-Dame de Paris. Et évidemment, c'est une manne, 12 millions de personnes par an, etc. Donc, non, mais c'est 2 poids 2 mesures, enfin, justement. Tout ça, le soir même où notre cher président devait faire sa déclaration enregistrée l'après-midi. Donc tout ça, ça me renforce dans l'idée qu'il faut continuer à se battre tous les samedis, remonter les ronds-points, les cabanes, etc. Et puis bloquer même dans la semaine, même si c'est les fêtes de Pâques. Bon, moi j'en ai rien à faire, mais Pâques, pour moi, ça ne représente rien du tout. Voilà, en tout cas, bon combat à tous, continuez. Continuons le combat. Bye bye.
Bonjour, voilà, je vous appelle parce qu'on est une cinquantaine d'enseignants et non enseignants, syndiqués, non syndiqués et gilets jaunes, à protester aujourd'hui devant la DSDEN contre les différentes réformes du gouvernement qui démantèlent le service public d'éducation. Donc on proteste, mais pas seulement, hein, on empêche aussi, on bloque l'entrée de la DSDEN au personnel administratif afin de les informer de tout ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale. Voilà.
Allô, 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 allô. Allô, 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 allô.
Merci à vous pour ces messages laissés sur la boîte vocale de Radio Albitzès, la boîte locale, et sur les répondeurs de l'émission Là-bas si j'y suis, notamment pour ce qui est des commentaires sur Notre-Dame de Paris et ses nombreux généreux bienfaiteurs sélectifs. Revenons sur ce dernier message, tout ce qui se passe dans l'éducation nationale, comme dit cette auditrice, pendant le blocage de la DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn. C'était jeudi dernier. On peut en gros faire la liste. Parcoursup, les réformes du baccalauréat et des lycées général technologiques professionnels, la loi Blanquer dite loi pour une école de la confiance, le budget, les suppressions de postes et le recours à la contractualisation et la réforme de la fonction publique. Et ces professeurs de la maternelle à l'université en lutte et en colère, en gilet jaune et sans gilet jaune, syndiqués et non syndiqués, des parents d'élèves, citoyens du Tarn Nord, comme le dit leur communiqué de presse qui complète le message de cette auditrice, ce collectif donc appelle à poursuivre ensemble la mobilisation. Demain mardi 14 mai à 18h, salle des associations et des syndicats, place d'Opoul à la mairie à Gaillac. Plus de renseignements et contacts par courriel prof, P-R-O-F-S et compagnie CIE@mailo.com ou directement sur place donc demain mardi 14 mai à 18h. L'occasion notamment, pourquoi pas, de confronter ses idées et stratégies quant à la défense du service public d'éducation nationale, mais pas forcément pour sauver les mauvais côtés de l'éducation nationale. On l'a entendu lors du débat autour de Laurence Decocq, lors d'un débat donc enregistré par nos soins il y a quelques semaines à Gaillac, et dont vous pouvez réécouter ou écouter sur notre site internet l'intégralité sur www.radioalbiges.com. Réagissez à ces messages ou à l'actualité, ou encore à nos émissions toute la semaine sur la boîte locale de Radio Albitzès 05 63 77 61 75. Messages qui seront diffusés lundi prochain dans Comme un lundi. Et si vous voulez faire un coucou à Daniel Mermet et l'équipe de l'émission Là-bas si j'y suis, c'est au 01 85 08 37 37 répondeur à retrouver sur la-bas.org. Allez, on enchaîne avec le premier sujet de ce Comme un lundi.
Comment allez-vous ?
Ma foi, comme un lundi. Frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Comme un lundi, sur Albitzès.
Jeudi 9 mai dernier à Albi, place du Vigan, l'antenne tarnaise de l'association des paralysés de France, France Handicap, était réunie dans le cadre d'une mobilisation nationale. Une semaine de mobilisation pour faire entendre les revendications des personnes en situation de handicap vis-à-vis de la politique gouvernementale qu'ils jugent insuffisante. Sur le site de l'APF France Handicap, on peut lire les raisons de leur motivation. Je cite « En 2017, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, posait le sujet du handicap comme une priorité de son quinquennat. Aujourd'hui, la politique du handicap n'est pas à la hauteur, les droits ne sont pas appliqués, voire en recul. Les situations se dégradent et les politiques publiques ne prennent pas en compte les attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles. » Fin de citation. Pour dénoncer cette situation alarmante, l'APS France Handicap a décidé de se mobiliser en lançant une caravane nationale intitulée « En route pour nos droits » afin de porter les revendications à travers la France du 7 au 14 mai 2019. En tout, ce sont 22 minibus qui vont converger vers Paris au départ de plusieurs grandes villes de France avec un passage par Albi. On écoute ce que ça a donné, c'était le 9 mai dernier, place du Vigan.
Le droit des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a une lettre ouverte qui va être déposée à l'Élysée le 14 mai. Et donc, toutes ces pétitions seront jointes puisqu'il y a plusieurs actions qui sont menées conjointement dans la France pendant toute la semaine.
Ok, mais je signe, ça marche.
Un autocollant, est-ce que vous voulez ?
Sinon, on est bien accueillis.
Bah oui.
Merci. Bonjour. Je vais faire un petit reportage pour Radio Albigès.
Oui.
Dites-moi déjà...
Déjà bonjour pour commencer.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?
Alors, je m'appelle Laura, je suis bénévole à APF France Handicap
Et aujourd'hui, on est ici pour défendre le droit des personnes en situation de handicap et rappeler à M. Macron les engagements qu'il avait pris par rapport au handicap et qu'il n'a pas tenu jusqu'à maintenant.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'était quoi ces engagements et
Alors, permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dignement, notamment grâce aux ressources, à la compensation du handicap. Voilà, leur permettre en fait d'être sur une base d'égalité avec les autres personnes.
Et peut-être c'est important de préciser pourquoi est-ce que les personnes en situation de handicap, elles ont besoin de certaines ressources supplémentaires que par rapport aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap.
Alors il faut savoir que le handicap entraîne beaucoup de conséquences sur la vie quotidienne et nécessite souvent des compensations en aide technique, notamment des fauteuils qui coûtent parfois très cher, des aménagements de la salle de bain, du logement, etc. Et donc avoir de faibles ressources, voilà, tout n'est pas pris en compte dans le remboursement de ces aides techniques. Et du coup, voilà, si elles n'ont pas de ressources, ça va être difficile pour elles de pouvoir vivre comme tout le monde.
Mais on aurait tendance à se dire en fait que c'est normal, c'est des acquis, que effectivement ça nous semblerait normal de se dire que pour acheter un fauteuil, ben, ce soit entièrement remboursé, ou pour aménager une cuisine ou une salle de bain, ce soit également des choses remboursées, mais c'est pas tout à fait vrai en fait.
Voilà, c'est ça en fait, tout coûte très cher et la moindre option sur un fauteuil en fait fait monter le prix du fauteuil. Et il y a une base qui est remboursée par la sécurité sociale qui est quand même assez minime. Ensuite, il y a un fonds de compensation du handicap qui permet la prestation de compensation du handicap qui permet de financer notre partie, les mutuelles aussi. Mais les fauteuils montent souvent très très cher et il reste souvent un reste à charge pour ces personnes-là. D'autres aides ne sont pas prises en charge non plus, notamment l'aide à la parentalité. Voilà, n'est pas prise en charge, n'est pas remboursée. Et il n'y a pas d'aide pour l'aide à la parentalité, ce qui est très dommageable. Et voilà, aujourd'hui, on veut défendre. Les droits des personnes, d'avoir une vie comme tout le monde.
Et alors vous, est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être un peu votre quotidien, quel est votre handicap et comment vous le vivez au quotidien?
Alors oui, moi je suis en situation de handicap suite à un AVC, je marche très peu, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un fauteuil roulant. Je n'ai pas eu droit à la prestation de compensation du handicap, donc j'ai dû financer mon fauteuil avec l'aide de la Sécu et de ma mutuelle. Du coup, je n'ai pas pu prendre un fauteuil super léger. Donc, c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Au quotidien, c'est compliqué parce que, je parle pour toutes les personnes en situation de handicap, on a besoin de plus de temps pour tous les actes de la vie quotidienne. Souvent, on a besoin d'aide pour la toilette, pour les déplacements à l'extérieur, etc. Et tous les moindres gestes prennent beaucoup plus de temps. Donc, voilà, c'est compliqué. L'accès aussi à la scolarité, à un travail, voilà, tout est compliqué et il faut se battre en permanence pour faire reconnaître notre handicap et nos droits.
Et donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors peut-être, c'est vrai que là vous souhaitez adresser un message au gouvernement, c'est un appel qui a été relayé dans toute la France du coup?
Voilà, c'est relayé dans toute la France. Donc il y a 22 convois qui vont se rendre à Paris pour le 14 mai pour remettre au président une lettre ouverte et une pétition que l'on fait signer un peu partout en France et qui est aussi en ligne et qui peut être signée en ligne.
Et peut-être sur les détails, est-ce que vous avez en tête les engagements du président qui ne sont pas respectés à ce jour-là ou,
Il y a notamment les ressources, augmenter les ressources des personnes en situation de handicap, augmenter l'allocation adultes handicapés qui est à 860 euros actuellement, donc qui est en dessous le seuil de pauvreté. Permettre un meilleur remboursement du matériel nécessaire à la compensation du handicap, entre autres l'accès à la santé, l'accès à tous les droits fondamentaux, permettre aux personnes de vivre comme tout le monde sur la même égalité, l'accès à la scolarité aussi, on souhaiterait le défendre, permettre à tout le monde, même si la personne est en situation de handicap, de pouvoir avoir une scolarité, l'accès au travail aussi, la compensation au niveau du travail, permettre à une personne de pouvoir travailler sur la même égalité qu'une autre personne. Voilà, c'est principalement les engagements que l'on veut défendre, l'accès aux soins.
Et il y a quelque chose, moi, qui me choque un petit peu depuis que j'y fais attention. Je ne sais pas si c'est des compétences du gouvernement ou peut-être plus au niveau local, comme la municipalité ou même la région, mais en ce qui concerne juste la mobilité, tout simplement. Des fois, je me balade dans Albi et puis je me rends compte que c'est une ville qui... à certains endroits n'est absolument pas adapté pour les personnes en fauteuil. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les municipalités, elles ont des obligations par rapport à ça pour permettre l'accès à tous de tous les services? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors oui, donc il y a des obligations d'accessibilité. Chaque ville est responsable en fait de sa ville et doit rendre accessible à l'aide d'un agenda d'accessibilité en fait. Ils ont un temps réglementaire pour rendre les villes accessibles. Sauf que malgré tout, ce n'est pas fait. Il n'y a pas de sanctions. Enfin, il y a eu des progrès, mais voilà, tout n'est pas respecté encore. Il n'y a pas de sanctions actuellement. Donc notre combat, c'est de conseiller aussi les villes. Voilà, on se tient à la disposition des villes pour les conseiller au niveau de l'accessibilité. Et petit à petit, qu'elles puissent vraiment permettre à tout le monde de se rendre dans les commerces et ne serait-ce que de circuler dans la ville. L'accès au transport également.
Ok, ben merci beaucoup. Je vois qu'on arrive avec des chiffres. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir là-dessus?
C'est un peu le programme. Donc on a 4 itinéraires sur 5 thématiques. Donc il y a pouvoir exercer ses droits fondamentaux, bénéficier de ses propres ressources et vivre dignement, être autonome et financer son autonomie, se loger et se déplacer. Voilà, c'est les principaux thèmes qu'on souhaite mettre en avant.
Donc ça, c'est lancé par la Fédération nationale de l'APF.
Alors c'est lancé par
par
l'association
France Handicap,
par APF France Handicap.
Des paralysés de France.
Voilà, anciennement Association des paralysés de France. Donc il y a 22 minibus qui vont se rendre à Paris pour remettre cette lettre ouverte au président le 14 mai.
Et est-ce que vous êtes assuré de la réception? Le rendez-vous est déjà pris ou
Normalement, on doit le rencontrer, oui.
D'accord.
Voilà, à l'Élysée.
C'est toujours le normalement devant.
C'est ça.
D'accord. C'est triste de devoir arriver à être obligé de devoir faire des mobilisations pour ça, malheureusement. Mais...
Oui, on n'a pas d'autre choix que de se montrer pour faire entendre nos revendications. Et aujourd'hui, en plus de montrer nos revendications, on veut vraiment sensibiliser le grand public aussi au handicap, montrer que ça peut arriver à tout le monde. Et que du coup, les difficultés sont bien là et que c'est une affaire qui concerne tout le monde. On a tous un proche en situation de handicap dans notre entourage.
Ben merci beaucoup et merci. Bon courage à vous. Et puis on espère que la mobilisation sera entendue.
Merci.
Donc ça, c'est le convoi officiel qui part
Ça, c'est notre convoi qui va partir parmi les 22 minibus qui vont rejoindre Paris.
Comme celui d'Albi, c'est donc 22 minibus qui devraient converger vers Paris pour arriver le 14 mai prochain, avec à la clé un rendez-vous avec Emmanuel Macron pour faire entendre les revendications des personnes en situation de handicap. Si vous souhaitez soutenir cette mobilisation, vous pouvez vous rendre sur le site apf-francehandicap.org. Une lettre ouverte a été rédigée et vous pouvez la signer si vous souhaitez apporter votre soutien. Cette lettre sera ensuite remise à Emmanuel Macron lors du rendez-vous prévu le 14 mai prochain.
Wow, c'est comme un lundi sur Radio Albitzès.
C'est lundi, ouais, les midi. Mes parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler.
On enchaîne ce magazine comme un lundi avec une chronique historique présentée par Guillaume Carbone. Alors Guillaume est étudiant en histoire à l'Institut Champollion d'Albi. Il participe également à l'atelier Radio Champeau, dont vous pouvez écouter les émissions tous les jeudis à 16h sur Radio Albigès. Et il a choisi cette fois-ci donc de consacrer sa chronique à un fait historique du XVIe siècle qui a profondément marqué le pays et qui a retenti jusque dans le Tarn, le massacre de la Saint-Barthélemy.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume de Radio Champeau. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'histoire et plus particulièrement d'histoire locale. En effet, en tant qu'étudiant en histoire, j'ai été amené à travailler sur un sujet de mon choix, sur l'histoire de notre région. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Saint-Barthélemy dans le Tarn et dans le Haut-Languedoc. Alors, qu'est-ce que la Saint-Barthélemy? Avant de répondre à cette question, replongeons-nous au XVIe siècle. L'Europe est alors secouée par les grandes découvertes, mais également par la réforme protestante de Martin Luther depuis 1517. Le protestantisme se répand alors dans de nombreux pays, majoritairement du nord de l'Europe, aux dépens des pays catholiques du sud de l'Europe. La France est alors partagée entre catholiques et protestants qui restent minoritaires. Les protestants sont alors nombreux dans le sud-ouest de la France et particulièrement au Haut-Languedoc, qui entoure les actuels départements du Tarn, de l'Aveyron, du Lot et du Tarn-et-Garonne. Dans un tel contexte, les tensions entre catholiques et protestants sont très fortes. Et c'est à partir de 1562 que les guerres de religion mettent à feu et à sang la France. Du coup, la Saint-Barthélemy, qu'est-ce que c'est ? La Saint-Barthélemy, c'est une tuerie perpétrée par les catholiques contre les protestants français à Paris le 24 août 1572. Les massacres vont se propager dans tout le royaume de France et vont être rapidement hors de contrôle. Ainsi, Albi et Gaillac seront touchés début octobre 1572 par la Saint-Barthélemy parisienne. Tout au long des conflits religieux et particulièrement depuis la Saint-Barthélemy, les catholiques vont donc persécuter et tenter d'éradiquer les protestants français appelés huguenots. Lorsque les nouvelles de la Saint-Barthélemy ont atteint Albi, les catholiques se sont déchaînés. Ils vont donc brûler et détruire les maisons et les lieux de culte des protestants. Des protestants furent égorgés, place du Vigan par exemple. D'autres furent emprisonnés par l'évêque d'Albi. Par la suite, 12 protestants furent jetés dans le Tarn et noyés. À l'époque, Albi était LA place forte catholique dans la région. L'évêque d'Albi, aux ordres des assemblées de Toulouse, mena la défense de la ville face aux armées protestantes très présentes dans la région. Castres ou Montauban étaient par exemple aux mains des protestants. À Gaillac, les huguenots sont mis à l'écart par les catholiques dès les nouvelles de la Saint-Barthélemy. Ainsi, des protestants, hommes, femmes et enfants, furent enfermés dans la tour du Palmata à Gaillac, puis massacrés. On dénombre environ 74 morts. Pour finir, les protestants furent expulsés dans de nombreuses villes et de villages catholiques, notamment à Toulouse et à Albi. Après la Saint-Barthélemy, plusieurs châteaux et villages aux alentours furent assiégés par les milices protestantes. En revanche, certaines villes seront épargnées par la Saint-Barthélemy, comme Soelle, une ville protestante, ou encore d'autres petits villages. Avant de continuer, je vous propose d'écouter une musique typique du XVIe siècle, la première canzone de Giovanni Gabrieli. C'était la première canzone de Giovanni Gabrieli. Poursuivons avec notre histoire de la Saint-Barthélemy dans le Tarn. Les huguenots, bien que moins nombreux, usèrent également de violence contre les catholiques. Comme eux, ils expulsèrent les catholiques dans les villes où ils étaient majoritaires, comme Montauban, Castres, Mazères ou Carmin. Certains protestants vont même brûler des églises catholiques dans les villages qu'ils contrôlaient. Dans la ville de Sorèze, en 1573, une partie de l'abbaye fut détruite par les protestants de la ville. Les pillages à l'époque étaient très fréquents, et Castres fut pillé par les Huguenots en 1573. Il faut se dire qu'à cette époque, que cette guerre ressemblait alors à une multitude de raids, de prises et de pertes de villes et de villages, ainsi qu'à quelques sièges pour les grandes villes. Par rapport aux catholiques, les protestants furent normalement moins violents, mais cela est surtout dû au fait qu'ils étaient moins nombreux. La Saint-Barthélemy a donc eu un fort impact sur le Haut-Languedoc et plus particulièrement sur le Tarn. Cependant, selon les territoires, la violence n'a pas été la même, du point de vue catholique comme protestant. Du fait de ses nombreux acteurs et de sa complexité, le conflit religieux a parfois évolué, alternant des phases de grande violence et des accalmies relatives. La Saint-Barthélemy en Haut-Languedoc illustre également la déchirure du royaume de France dans la seconde moitié du XVIe siècle entre catholiques et protestants. Mais les conflits vont continuer jusqu'en 1598, quand Henri IV signera l'édit de Nantes qui accordera des droits religieux, de culte et des droits politiques aux protestants. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si vous voulez en savoir plus sur la Saint-Barthélemy dans le Haut-Languedoc, je vous propose d'aller regarder sur internet le blog des valorisations du patrimoine et des humanités numériques de l'Institut universitaire Champollion d'Albi. Vous trouverez également plein d'autres pages sur le Tarn et l'histoire de la région. Merci d'avoir écouté cette chronique. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Radio Champo tous les jeudis de 16h à 17h. Au revoir.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est comme un lundi.
Les années 70. Les Trente Glorieuses ayant fait leur temps et les utopies hippies sacrifiées sur l'autel du capitalisme, le désordre fait place au désordre. L'expression « en crise » devient le nouveau « Ave Maria » et avec lui les grèves et l'inflation. À bas les vieux idéaux, place au nihilisme destructeur, place au punk. Guitare simpliste, chant scandé, le punk revient aux bases du rock. L'expression de la révolte, et défriche la scène en la rendant accessible à qui veut crier ses idées. Plus besoin de faire 10 ans de conservatoire ou des solos de dingue, existe le vieux rock grandiloquent. En bref, une bombe nucléaire rasant tout sur son passage. Mais les retombées se font rapidement sentir, et déjà les Sex Pistols se séparent pour des raisons pécuniaires. Et ceux qui hier hurlaient contre le système se font signer par les grandes maisons de disques, ou se font photographier aux côtés de touristes pour une poignée de livres. Mais tout ne fait que commencer. Ce n'est que le début d'un nouveau son, d'une nouvelle vague qui va déferler sur le monde. La rage se refroidit et s'intériorise. On abandonne les crêtes et autres vêtements déchirés, devenus objets de mode et de curiosité. La critique se fait elle aussi plus subtile, mais toujours portée par un cynisme nihiliste. Musicalement, on expérimente, on élargit les frontières. L'arrivée des synthétiseurs accessibles sur le marché permet de tenter de nouvelles choses, et le son s'électronise. On s'inspire de l'avant-garde pour créer de véritables nouvelles œuvres pour changer la musique. On élabore un son neuf. Bref, un véritable foisonnement artistique. Mais concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? À vrai dire, le post-punk, c'est un genre assez vaste et varié, et ça fait tout son intérêt d'ailleurs. Mais pour moi, un morceau qui symboliserait vraiment le post-punk, ça serait Disorder de Joy Division, qu'on va s'écouter en entier.
stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
Disorder de Joy Division, sorti sur l'album Unknown Pleasure en 79. Tout y est. On entend bien les basses punk avec une basse importante, une guitare simple, mais doublée d'une réverb qui donne un côté quasi industriel. Une voix qui a intériorisé le cri pour le traduire en un chant parfois tremblant et même parfois plaintif, et qui chante Bad Future plutôt que No Future. Bref, un véritable manifeste du post-punk. Mais le post-punk, c'est aussi Succès de Banshees, The Cure, Gang of Four, les Talking Heads. Et tous vont révolutionner le paysage musical, tous inspirés par l'intarissable énergie du punk. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille les ouvrages de la maison d'édition Camion Blanc. Et on se quitte sur Love Like Blood de Killing Joke.
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Albigès dans votre magazine Comme un lundi, et à l'instant on vient de se faire une petite pause musicale. Une pause musicale qui vous annonce l'arrivée d'une nouvelle émission sur Radio Albigès. C'est l'émission Transmission et elle est réalisée par Bastien Laurent que vous avez entendu pendant cette chronique. La première émission consacrée donc au post-punk vous sera diffusée ce jeudi dans le créneau original Mescladis à 20h sur nos ondes. Cette première émission sera consacrée à l'utilisation de l'électronique dans le post-punk. On s'approche de la fin de votre magazine Comme un lundi de ce 13 mai 2019 et pour finir on vous propose un portrait de citoyen d'Occitanie, le portrait de Fred Boyer, paysan des couleurs, réalisé par la radio CFM Kailus. On écoute ça et on se retrouve juste après dans quelques minutes pour la conclusion de ce magazine. Restez avec nous sur Radio Albigès.
Citoyen d'Occitanie.
Un portrait proposé par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Citoyen d'Occitanie.
Fred Boyer, paysan des couleurs, bonjour.
Oui, bonjour. Ben, là, on est dans la forêt de la Grésigne, une des plus vieilles forêts d'Europe, qui fait 3600 hectares. Donc, 3600 hectares, c'est un hectare, c'est un terrain de foot avec une piste autour. Donc on pourrait rentrer 3600 terrains de foot dans la forêt de la Grésigne, à part qu'on ne pourrait pas jouer au foot comme avec les règles habituelles. Mais les règles, elles sont liées aussi au territoire et à ce qu'on va y faire. Voilà. Quand on parle de territoire, là devant nous, on a une limace noire qui déambule dans un terrain sec. On se dirait que c'est pas possible. Ça prouve bien que dans la nature, tout est possible. À la fois, il y a des généralités, mais il y a aussi des exceptions. Et donc, nous aussi, quand on évolue dans un territoire, on doit être aussi des exceptions. Parce que le territoire, il nourrit, il est lié à son histoire. Comme ici, en fait, dans cette forêt, il y a eu à la fois des gens du cru qui ont travaillé, mais le cru, ça veut dire quoi? C'est lié au terroir, le cru. Quand on parle de cru pour un vin, c'est lié en fait à la fois à la plante, aux hommes qui ont travaillé, aux cépages, etc., etc. Et donc, ça veut dire que le territoire, il nous nourrit. Et il est important, car il est ancré aussi dans son histoire. D'une langue, comme l'occitan, mais aussi de pratiques autour d'ici. Là, on est donc sur la Grésigne, en fait, cette forêt, en fait, c'est à la fois un dôme de grès, c'est pour ça qu'on l'appelle Grésigne. Elle est modelée par aussi des cours d'eau, les plus importants comme l'Aveyron d'un côté, qui vient du Rouergue. Mais il y a aussi, en fait, plein de petits ruisseaux qui vont, en fait, irriguer à la fois les terrains, les territoires, mais qui vont aussi irriguer, en fait, les individus qui vont y vivre. De nous en tant qu'humains aujourd'hui, comme la limace qui en fait dans cet univers tout sec, même s'il y a un peu une régulation thermique et climatique qui est liée aux arbres, eh bien elle va y trouver son compte. Et on pourrait dire mais une limace elle n'a rien à faire en plein jour, en plein mois de septembre, sous la canicule, mais dans la forêt c'est pas la canicule.
Cette forêt de la Grésigne c'est une richesse mais c'est aussi votre outil de travail.
C'est à la fois mon outil de travail et le cœur de ce qui me nourrit au quotidien. Parce que c'est un endroit où je vais avoir un rapport différent au temps, à l'espace, où même quand je viens seul, en ayant une connaissance en fait de la faune, de la flore, je rentre un peu en relation dans cette communauté animale et végétale sauvage. Et c'est pour ça qu'en fait, quand moi je propose de venir avec un public, moi je propose des balades nature dans la forêt de la Grésigne, mais aussi aux environs, et je propose ce que j'appelle des expériences sauvages. Je propose des choses autour des encres et teintures végétales, autour de la couleur végétale. Donc il y a dans mon approche, il y a aussi quelque chose qui est lié à la transmission de savoir et à de l'appropriation de savoir. Parce que c'est pas que être dans l'écoute, mais c'est aussi y mettre les mains dedans. Donc ça peut être aussi des ateliers de teinture ou d'encre végétale, des balades nature, et aussi des choses autour du jardin au naturel, avec plus une orientation liée au compostage. Et quand l'humain et certains humains savent faire des choses, on a tout intérêt à partager nos expériences et à les mutualiser et à les faire mutualiser par la pratique en y mettant les mains dedans. Il y a un peu un truc qui est de l'ordre de quelque chose qui est un peu initiatique. Initiatique, initiation, pratique.
Pourquoi paysan des couleurs ?
Pourquoi paysan des couleurs ? Parce que, en premier, parce que j'avais une attirance pour les couleurs végétales. Mais aussi parce que pour moi, la notion de paysan, elle est liée au pays. Donc c'est cultiver un peu le pays, travailler le pays, et liée à la couleur. Parce qu'en même temps, pour moi, la couleur, à la fois, est de l'ordre du vert, du rêve. Il n'y a pas de couleur sans lumière. Et le côté paysan et couleur, ça amène du rêve. Et ça continue à entretenir du rêve, mais en même temps, ça met de la pratique sur quelque chose en fait où apparemment il n'y a pas d'enjeu. Le paysan, il cultive à la fois ses relations, il cultive sa terre. Et la plupart des petits paysans qui étaient qui ont subsisté ou qui ont été à un moment donné très nombreux, il y avait une histoire de pure activité, c'est-à-dire qu'on faisait plusieurs choses. Voilà. Et pour faire plusieurs choses, souvent il faut être en contact avec son sol, avec l'air, avec les arbres, etc. Si on n'est pas en contact et qu'on est dans de la technologie, on est déconnecté de tout ça. Et à un moment donné, ça va nous jouer des tours, sûrement. Comme la limace qu'on avait rencontrée tout à l'heure, en fait, elle passe sous un tronc à l'ombre pour rentrer dans le sol. Moi, je ne vais pas forcément rentrer dans le sol, mais je vais quand même peut-être continuer à m'ancrer dans mon sol, mais pour être ouvert aussi à tout ce qu'il y a autour de moi.
Merci, Fred Boyer. Ce portrait de citoyen d'Occitanie a été réalisé par CFM Keylus dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
Allez, on arrête un petit peu de faire la tête. C'est comme un lundi sur Radio Abitsis.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
La recette du bonheur selon Otis, le scribe dans le célébrissime Astérix Mission Cléopâtre. Et c'est déjà la fin de votre magazine Comme un lundi sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Merci des vos stress couteaux. Alors on vous laisse en compagnie de la playlist de Radio Albigès pour quelques petites minutes. Et puis à 13h, vous pourrez écouter sur nos ondes l'agenda de vos sorties dans le département. Un petit tour d'horizon des émissions qui vous attendent cette semaine sur Radio Albigès. Alors, pour commencer, demain, vous pourrez écouter les 6e rendez-vous de l'humain organisés par l'association Graines de Bien-être. L'émission participative enregistrée au Café Plume de Lautrec et animée par Hervé Munet-Didier sera consacrée cette semaine à la santé et à la sexualité. C'est à écouter donc demain à 22h sur nos ondes, sinon dimanche à 20h, et puis évidemment en podcast sur le site radioalbiges.com. Mercredi à midi et 18h dans votre magazine Gardarem La Terre, vous pourrez entendre des échos de la 6e journée de la biodiversité, c'était à Fond-Labour il y a quelques semaines. Jeudi ensuite, place aux jeunes puisque vous pourrez écouter la dernière émission de Radio Champeau réalisée cette année avant la pause partielle et vacances. Cette dernière émission vous fera découvrir l'association de théâtre des étudiants et des étudiantes de la faculté. Et puis à 20h, vous pourrez écouter donc la nouvelle émission Transmission réalisée par Bastien Laurent et consacrée au post-punk. Et puis vendredi à midi et 18h dans votre magazine À tout Tarn, on vous propose d'aller faire un tour à Castres et de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, Radium. Radium, c'est la radio active et associative de Castres. Ses studios sont situés aux Ateliers, un tiers-lieu que nous vous proposons donc de découvrir au cours de cette émission. C'est donc ce vendredi à midi et 18h. Et puis évidemment, toutes les émissions, vous pouvez également les écouter en podcast en passant par le www.radioalbiges.com. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Albigès. Très bonne écoute.